Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur la radio BAC FM 106.1. Je m'appelle Alexandra Blondeau et je suis élève en classe de première scientifique au lycée Raoul Follereau. Je suis en compagnie de Camille et Margot qui sont en classe de seconde, mais je vais laisser Camille vous expliquer la raison de notre présence dans les studios de BAC FM.
Bonjour, alors nous nous trouvons ici pour une émission spéciale Fête de la Science, puisque c'est la 22e édition de cette manifestation qui a lieu dans toute la France avec pour objectif de mettre la science à la portée de tous, petits et grands.
Effectivement, et nous sommes en compagnie aujourd'hui avec Madame Pascale Launoy, qui est physicienne et directrice de recherche au CNRS, au laboratoire de physique des solides à Orsay.
Madame Launoy, bonjour.
Bonjour.
Selon vous, quel est l'intérêt majeur d'une manifestation comme la Fête de la Science ?
Alors, le premier intérêt, bien sûr, c'est de montrer ce qu'est la science au grand public, c'est-à-dire aux jeunes comme vous, mais aussi aux moins jeunes qui ne sont pas scientifiques. L'intérêt, c'est de faire passer une certaine culture scientifique, puisque la science, c'est présent dans notre vie. C'est aussi quelque chose qu'on finance avec nos impôts, etc. Pour moi, l'intérêt est de faire découvrir quelque chose qui parfois paraît rébarbatif aux personnes qui n'ont pas choisi cette voie au niveau du lycée ou après.
Très bien. Participez-vous à d'autres événements promouvant les sciences ?
Alors, cette année, c'est une année un peu particulière pour les gens qui, comme moi, étudient la structure de matériaux. C'est l'année de la cristallographie, l'année internationale. Donc, il y a énormément d'événements autour de la cristallographie, de l'étude de la structure, que ce soit donc de matériaux, mais aussi de molécules biologiques, etc. Donc, on participe à énormément d'événements dans ce cadre. Et bien sûr, on participe en tant que scientifique régulièrement en donnant des conférences ou en accueillant des gens dans nos laboratoires à l'occasion des fêtes de la science chaque année.
Vous êtes physicienne et directrice de recherche au CNRS à Paris. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce métier et en quoi il consiste ?
Alors, j'ai choisi ce métier par passion, en fait, parce que la recherche, c'est se poser des questions et essayer d'y répondre. Donc, c'est un métier où on décide de... On peut faire de la recherche fondamentale ou appliquée. Moi, je fais de la recherche fondamentale. Donc, en gros, ça veut dire essayer de comprendre. Avec, bien sûr, l'espoir quand même ou l'intérêt dans des applications éventuelles, mais pas ciblé, pas dirigé sur une application. Donc, on est très libre, en particulier au CNRS, sur ce qu'on fait. On décide de nos sujets et on travaille dessus. Donc, c'est un métier où on est libre, où on se pose des questions et où on est assez passionné en général. C'est aussi un métier auquel on consacre énormément de temps. On bosse pas mal soirée, week-end. Et nos journées, y a une part qui est passionnante, qui est de faire de la recherche. Donc, dans mon cas, c'est faire des expériences, essayer de les comprendre, de les analyser. Et comme dans tout métier, il y a une part aussi moins passionnante, ou comme pour vous dans vos études, il faut trouver de l'argent, il faut faire des choses ennuyeuses. Par exemple, préparer un petit bout d'expérience au lieu de faire une expérience qui nous intéresse, etc.
Et justement, à quoi ressemble une journée type dans votre travail ?
Ah, j'avais cru que c'est ça que vous m'aviez demandé, excusez-moi. En gros, une journée type, c'est des journées où on... C'est des journées... Alors, on fait différentes sortes de choses. Au laboratoire, donc, on fait des expériences, on les analyse. Et aussi, donc, quand on progresse dans le temps, qu'on devient senior scientiste, il y a une part de direction de jeunes. Ça, c'est très sympathique. Donc, de thésards, de post-doctorants, donc de jeunes qui ont entre 22 et 30 ans. Il y a une part de tâches administratives, ça c'est moins sympathique, mais c'est aussi normal. Et il y a une part de temps consacré aussi à de la recherche d'argent. Parce que, bien sûr, nos salaires sont payés, mais il faut aussi de l'argent pour faire des expériences, etc. Une autre part, donc la part excitante du métier de chercheur au jour le jour, c'est de faire la recherche. Et une part très motivante aussi, ce sont les conférences où on va régulièrement. et on rencontre des tas d'autres chercheurs passionnés où on discute énormément, on présente nos résultats qui sont des grosses occasions d'échange.
D'accord. Quels sont les objectifs de vos recherches actuelles ?
Alors actuellement, je travaille en nanosciences sur les nanotubes de carbone et d'imogolide. Donc c'est des nanotubes. Nanotubes, ça veut dire diamètre de l'ordre du nanomètre, donc le milliardième de mètre. Et par contre, qui peuvent faire un centimètre de long. Ces nanotubes, ils peuvent être intéressants pour désaliniser l'eau de mer. Donc ça pourrait avoir des implications majeures. Ou pour le contrôle de l'humidité. Donc il y a des applications éventuel à venir. Et moi, j'essaie plus actuellement en recherche plus fondamentale de comprendre comment l'eau se comporte dans ces nanotubes, parce que on peut pas utiliser sans comprendre, parce qu'on maîtrisera pas.
Le fait d'être une femme dans le domaine scientifique n'a-t-il pas été trop pénalisant ou contraignant pour vous, et si oui, de quelle manière?
Alors, ça n'a pas été pénalisant ou contraignant. Il y a hélas pas assez de femmes dans le métier scientifique, en particulier dans ce qu'on appelle les sciences dures, c'est-à-dire la physique ou les maths. Il y en a un peu plus en biologie. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de femmes dans ce métier, parce qu'il n'y a pas plus de raisons de penser qu'un homme a la bonne tournure d'esprit, etc. Et le seul point où ça peut être un peu pénalisant, c'est pas dans la vie quotidienne où moi je suis dans un laboratoire où il y a pas mal de femmes, il y a une très bonne ambiance. Par contre, comme dans des tas de métiers, il existe encore un plateau de verre. C'est-à-dire que c'est, statistiquement, il y a moins de femmes qui obtiennent des promotions que d'hommes. Alors les raisons sont multiples. Nadine a dit ce matin que peut-être elles étaient moins ambitieuses, elles sont peut-être aussi moins aidées. Mais donc, entrer dans la recherche, je crois qu'il faut le faire. Il faut qu'il y ait de plus en plus de femmes dedans. C'est un métier passionnant. Et comme dans des tas de métiers, il y a statistiquement des différences en termes de promotion femmes-hommes. Et c'est parce qu'il y aura de plus en plus de femmes qu'il y aura de moins en moins de différences aussi.
D'accord. Pouvez-vous nous décrire votre parcours après le bac et ce qui vous a motivé durant toutes vos études avant de devenir physicienne au CNRS ?
Alors, j'ai fait des études à l'université d'Orsay ou à Paris, liées aux deux universités. J'étais passionnée par la physique, et puis j'ai eu la chance très vite de pouvoir faire différents stages dans des laboratoires l'été, ou ensuite dans le cadre de ce qu'on appelle maintenant le Master 1 et le Master 2. Et donc, j'étais extrêmement motivée par l'idée de faire de la recherche, et en physique.
Très bien. Lorsque dans les années 80, vous êtes tournée vers la physique des solides et la cristallographie, vous avez dit « J'avais envie d'une physique qui se pratique à l'échelle humaine ». Pouvez-vous nous expliquer votre pensée à ce moment-là ?
Oui, alors, cette phrase-là, vous l'avez reprise, je crois, dans une interview donnée au CNRS, hein ?
Oui.
C'est ça ? Oui. En fait, c'était le contexte, c'est que l'intervieweur avait vu que j'avais fait un master 2 dans un domaine qui était plus lié à la physique des particules. Et je me suis ensuite tournée vers la physique des solides, qui n'était pas dans la lignée du master 2. Donc, il m'a demandé pourquoi j'avais fait ce changement. Alors, pour quelqu'un qui ne connaît pas tout ça, c'est de la physique des particules, c'est quand même... Bon, c'est... Par exemple, vous avez tous entendu parler, je pense, de la mise en évidence du boson de Higgs l'an dernier.
Non, pas nous.
Ah. Bon, personne. Bon, ben, en gros, la physique des particules, ça consiste évidemment à étudier des particules à l'aide d'énormes machines comme le CERN en Suisse, et à essayer de comprendre aussi les lois fondamentales de l'univers, comment elles interagissent, et donc essayer d'unifier toutes les forces, etc. C'est de la physique qui, quand je faisais mes études, me semblait passionnante. Mais quand j'ai été en Master 2, je vous ai dit que j'avais eu la chance de faire régulièrement des stages. J'ai fait un stage en physique des particules. Et je me suis rendu compte que les expériences, par contre, se faisaient à très grosse échelle. C'est-à-dire qu'il y a 50 personnes sur une expérience. Et donc, en schématisant, les personnes qui sont les chefs de l'expérience ont une vue globale. Mais un jeune thésard, après son Master 2, regarde un tout petit bout. Et ça, ça me convenait pas trop. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers la physique du solide où on est deux, trois à faire une expérience, à l'interpréter, c'est-à-dire on arrive à aller d'un bout à l'autre, à l'étude de cristaux ou de molécules, etc. Et c'est ça que je voulais dire par échelle humaine, c'est-à-dire où il y a une échelle plus, on résout plus, on arrive à faire sa recherche à l'échelle de l'individu et pas dans un trop grand groupe, en petit groupe.
D'accord. Nous avons pu assister cet après-midi à votre conférence sur Rosalind Franklin et le cliché de diffraction qui a révélé la structure de l'ADN et donc la molécule de la vie. Pouvez-vous nous expliquer qui était Rosalind Franklin ?
Alors, Rosalind Franklin, c'était une physico-chimiste anglaise qui est née en 1920 et qui est morte très jeune, à 37 ans, qui avait d'abord travaillé sur les carbones et qui ensuite s'était tournée vers la biologie. C'était une physicienne remarquable et qui a fait des découvertes importantes dans chaque domaine où elle a travaillé. Et en particulier, donc, c'était une expérimentatrice remarquable qui a obtenu des résultats qui ont permis de découvrir la structure de l'ADN et ensuite qui a résolu aussi la structure de plusieurs virus.
Et pourquoi Rosalind Franklin n'a-t-elle jamais été reconnue pour sa contribution ? Et pourquoi le prix Nobel pour la découverte de la structure de l'ADN a-t-il été attribué à Watson, Crick et Wilkins et pas à elle ?
Alors, en fait, Rosalind Franklin n'a pas été reconnue à sa juste valeur pour sa contribution dans les années 50. D'abord parce que ses résultats ont été utilisés à son insu et que les personnes qui l'ont fait l'ont dit que 10-20 ans plus tard. Ensuite, parce que il y avait aussi tout un climat institutionnel qui favorisait peut-être plus les hommes à cette époque, en tout cas qui a favorisé plus ces trois hommes-là, ce qui enlève rien à leur mérite à eux aussi en termes de recherche. Pourquoi elle n'a pas eu le prix Nobel ? Il y a deux raisons. D'abord, elle était décédée à la date où le prix Nobel a été remis. Enfin non, il y a une raison, disons, elle était décédée et un prix Nobel est donné qu'à une personne vivante, de son vivant. Par contre, une question, c'est de savoir si elle aurait eu le prix Nobel si elle avait été en vie. Et à l'époque, c'est pas certain. Maintenant, 30 ans après, elle l'aurait eu parce que, entre-temps, sa contribution à la découverte de la structure de l'ADN a été beaucoup discutée et reconnue.
D'accord. Pourquoi avez-vous choisi d'aborder ce sujet ?
Alors, en fait, c'est une histoire un peu complexe. À la sortie de l'école où, en attendant une de mes filles, j'ai rencontré une sénatrice qui écrit des pièces de théâtre, qui avait vu une émission sur Rosalind Franklin. On bavardait, je lui avais dit que j'étais scientifique. Elle avait envie de faire une pièce sur elle, mais en s'accentuant sur le fait que c'était une femme juive, sur l'aspect femme et juive. Elle m'a demandé si je pouvais regarder ses contributions scientifiques pour lui expliquer. Elle a finalement pas fait la pièce parce que c'était aussi une femme réservée. C'est pas si facile de trouver un angle d'accroche sur le plan personnel. Mais ensuite, je me suis aussi intéressée à tous les travaux sur la structure de l'ADN parce que c'est la résolution de structure en hélice que j'utilise aussi pour comprendre la structure des nanotubes de carbone. Et pour l'année de la cristallo, donc où la diffraction, la résolution de structure est importante, j'ai choisi de reparler de Rosalind Franklin. Donc, parce que tous les mécanismes qui ont conduit à, enfin, les théories qui sont sous-jacentes à la structure m'intéressaient, parce que c'est une histoire qui est un peu par féministe, parce que c'est une histoire où elle a été assez maltraitée à l'époque aussi.
Utilisez-vous actuellement dans votre domaine de recherche le phénomène de diffraction de la lumière qui avait été utilisé en 1953 par Rosalind Franklin?
Oui, justement, donc j'utilise la diffraction des rayons X, qui est une onde électromagnétique, une forme de lumière avec une petite longueur d'onde, pour étudier donc la structure des nanotubes, de ces nano-objets, ou pour étudier la structure de l'eau quand elle est dedans, et essayer de comprendre donc le comportement de l'eau dans les nanotubes.
Et avant de terminer cette interview, quels sont les conseils que vous pourriez donner à de jeunes lycéens ou lycéennes qui sont attirés par les sciences sans forcément avoir une idée précise d'un métier dans ce domaine ?
C'est pas facile. Bon, ce que je peux dire, c'est qu'il y a, lié aux sciences, il y a des tas de métiers. Il y a le métier de chercheur, il y a le métier d'ingénieur, il y a les métiers de technicien, qui dépendent aussi des goûts de chacun. Et pour ce qui est des voies à suivre, c'est pas très facile parce que il y a les IUT pour les techniciens. Par contre, au niveau chercheur ou ingénieur, il y a la possibilité de faire l'université ou les grandes écoles. Je pense que l'université est une excellente formation, mais on sait tous aussi que les grandes écoles sont un peu un lobby en France et qui aide aussi à avoir des plus grandes facilités après. Donc, je ne donnerai pas des conseils à quelqu'un là-dessus. C'est aussi une question de caractère, de goût. Mon seul conseil, c'est de... Je pense que pour faire de la recherche, il faut être passionné, en tout cas.
Très bien. Bon, nous vous remercions, Madame Lenoir, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir participé à cette fête de la science au sein du lycée Raoul Folraud.
Merci à vous.
Et merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés sur BAC FM 106.1.
Si vous êtes disponible, n'oubliez pas de noter dans votre agenda la journée du vendredi 17 octobre, car 3 autres conférences seront organisées au lycée Raoul Folraud dans le cadre de la fête de la science, entre 9h et 15h.
Une conférence sur le virus de la grippe et le virus Ebola de François Salvadori. Une autre sur la sécurité et la durabilité des matériaux utilisés dans le domaine de l'énergie de Sébastien Chevalier. Et enfin, une conférence de Sandrine Goffinet avec des exemples concrets du quotidien mettant en évidence les relations entre la structure cristalline des matériaux minéraux et leur utilisation.
Bonne fin de journée sur les ondes de BAC FM et rendez-vous le 17 octobre. Au revoir!